BFM Business et Tech & Co présentent Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Et un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, bienvenue sur BFM Business. Il est 20h pile en ce jeudi soir. C'est Tech & Co, la quotidienne. Un vrai plaisir que de vous retrouver, sincèrement. Merci d'être là en direct à la radio, à la télé ou peut-être en replay ou en podcast. Le jeudi soir ou le vendredi matin ou même le week-end, on sait que vous êtes très nombreux à nous écouter en replay. Alors sachez que jusqu'à 21h30, c'est votre rendez-vous tech, comme chaque soir du lundi au jeudi, avec ce soir dans Tech & Co, la quotidienne. Eh bien, on va revenir sur cet exploit spatial Polaris Dawn, cette mission incroyable qui a permis à un milliardaire et une collaboratrice de Tesla de sortir dans l'espace, alors que ce n'est pas leur métier, c'est ça qui est incroyable. On parlera aussi d'Apple Intelligence, vous le savez, qui a été annoncé lors de la keynote d'Apple et à la WWDC. Est-ce que c'est l'Europe qui, en fait... empêche que Apple Intelligence arrive rapidement, rien n'est moins sûr. Et puis on évoquera évidemment Tesla, dont l'option, vous le savez, de conduite autonome devrait arriver dans quelques mois en Europe. Et on aura un spécialiste de la question qui viendra sur le plateau de Tech & Co, un porte-parole de la start-up X qui travaille justement sur tout ce qui est algorithme de voitures autonomes. Ça s'annonce passionnant. Voilà le menu, un grand merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et bien sûr, Tech & Co, chaque soir, c'est une heure de débrief de l'actu tech. Vous en avez l'habitude maintenant. Et je sais que vous plébiscitez ce rendez-vous et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous le proposer. Ce soir, dans Tech & Co, nous avons Hugo Borenstein. Salut Hugo.
Salut.
Co-fondateur et président d'Omi et ancien de...
Meta.
Voilà. Ouais. On va parler un peu de Meta tout à l'heure.
Ah bien.
Concernant l'intelligence
on va dire
artificielle.
Du bien,
je sais pas, de toute façon, tu t'en fous, t'es plus là-bas.
T'as raison.
Et puis à côté de Hugo, c'est Jérôme Marin. Salut Jérôme.
Salut François.
Fondateur de cafetech.fr. Et pour tous ceux qui ne connaîtraient pas cafetech.fr, c'est la newsletter pour se tenir au courant de toute l'actu tech.
Oh, ouais, on va dire ça.
Non mais parce qu'il est tellement humble, Jérôme. Il dit non mais c'est pas si bien que ça. Vous allez voir, c'est un peu moins... Non, c'est très bien, Cafetech. Et je vous invite à la découvrir. De toute façon, ça ne vous coûte rien de vous inscrire, de regarder ce qui se passe. Et puis après, si ça ne vous, vous plaît pas, vous désinscrivez.
Quoi. Facilement, exactement.
Voilà.
Mais ça vous plaira.
Mais tout à fait. C'est comme Fred Simotel. Personne n'essaie de désinscrire. Ça ne marche pas quand on appuie sur le bouton. Il est toujours là. Et ça fait plaisir. Merci, Fred, d'être là.
Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir, François.
Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Alors, dans l'actualité tech... Plein de sujets passionnants ce soir. Les vagues de licenciements chez Microsoft, on croyait que c'était terminé après la récente vague d'il y a quelques semaines. Mais non, ça continue. 650 salariés d'Activision Blizzard qui vont être poussés vers la sortie. On parlera aussi de jeux vidéo et de cette plainte d'association concernant justement les pratiques trompeuses de certains éditeurs qui jouent un peu avec les mots concernant des jeux gratuits. Qui sont gratuits quand vous les téléchargez. Et c'est surtout pour les enfants qui sont les plus fragiles. Et au bout d'un moment, ces enfants sont tentés de payer des petites options, etc. Le problème, et c'est ce qu'on reproche ces associations, c'est que c'est mal indiqué et que ça peut coûter très très cher. En fait, c'est du freemium, mais c'est un peu le principe du freemium, finalement. Rien n'est vraiment caché. C'est intéressant, on suivra tout ça de près. On parlera aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Bref, que des bonnes choses. Mais pour débuter, ça y est, c'est fait. On a assisté ce midi à la première sortie privée dans l'espace orchestrée par SpaceX à une distance de la Terre qui n'était jamais vue depuis le mythique programme Apollo. Et donc deux civils ont passé près d'un quart d'heure dans le vide sidéral, c'est-à-dire qu'ils sont sortis en fait de leur cabine spatiale et étaient accrochés comme à une espèce de cordon ombilical. C'est dingue. Les explications de Jean-Baptiste Huette et après, évidemment, on va débattre avec passion sur ce sujet.
C'est un sans faute pour SpaceX. Le milliardaire américain Jared Isaacman a effectué la première sortie d'un civil dans l'espace à environ 600 km d'altitude, suivi quelques minutes plus tard par une ingénieure de SpaceX. Cette sortie était aussi l'occasion de tester grandeur nature les nouvelles combinaisons développées par l'entreprise d'Elon Musk. Les deux astronautes ont effectué quelques tests de motricité. Ces combinaisons équiperont peut-être les futurs voyageurs qui iront sur la Lune ou pourquoi pas sur Mars. Spécificité de la mission, pour sortir, il a fallu dépressuriser la capsule entière, car elle ne possède pas de sas. Sur les 4 astronautes, 2 sont restés harnachés sur leur siège et donc exposés au vide spatial. L'écoutille a ensuite été refermée, la cabine repressurisée. Comme d'habitude avec SpaceX, cette sortie s'est révélée être un vrai show. Les caméras embarquées ont permis de suivre l'événement minute par minute, à bord de la capsule, à l'extérieur, avec une vue imprenable sur la Terre. Le patron de la NASA exulte. Voilà un pas de géant pour l'industrie spatiale commerciale. Et c'est vrai, puisque jusqu'à présent, les touristes de l'espace devaient se contenter de rester sagement derrière leur hublot.
Alors voilà, Elon Musk, Dieu sait s'il nous agace hein, quand il tweet un peu à tout et n'importe quoi. Bon voilà, quand il fait des sorties assez discutables. Mais il faut quand même se rendre à l'évidence, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a encore réussi un truc incroyable. Un truc qui nous fait tous rêver, quoi. Des humains qui se retrouvent comme ça, libérés dans l'espace, en toute sécurité, visiblement, parce que ça s'est bien passé. Donc, un milliardaire qui est donc sorti, plus une collaboratrice de SpaceX, une jeune fille, une jeune femme.
Ouais, une trentaine d'années, oui.
Qui s'est retrouvée en plein rêve, quoi.
Qui avait piloté, elle a eu plusieurs missions. Enfin, à 30 ans, elle avait déjà participé, elle pilotait à distance le Crew Dragon, là, dans les opérations de ravitaillement. Elle s'occupait de l'entraînement des astronautes. Enfin, voilà, elle a déjà un parcours.
Surdouée de l'espace.
Oui, voilà. Qui, au départ, je disais sa biographie, elle voulait être violoniste classique. Voilà, fort heureusement. Elle a trouvé un prof, au lycée, elle a trouvé un prof qui a su la diriger vers les études d'ingénieur. Et puis, la voilà, aujourd'hui, elle était au-dessus de la Nouvelle-Zélande, là. Sa sortie, donc à un moment où voilà, ils étaient passés derrière le soleil, donc tout était noir, mais c'était vraiment impressionnant. Et de suivre ça, et comme le disait Jean-Baptiste Huet dans son reportage, on a suivi ça comme un film, quoi. Chaque étape était expliquée. Alors, il y avait bien entendu des commentateurs de SpaceX, il y avait un ancien astronaute qui lui avait fait plusieurs sorties qui expliquait un peu tout ce qui allait se passer. Et puis surtout, on suivait ça, on disait, là, ça y est, ils sont en train de préparer l'ouverture de la trappe. Ça y est, là, on passe à la ventilation. Or, d'abord, c'était la ventilation de la cave, mise en dépression de la cabine. Ça y est, elle est en train d'être dépressurisée. Alors, ils expliquaient, on entend le bruit. Ensuite, on voyait le petit curseur avancé. Toc, et bien maintenant, c'est préparation de l'ouverture de la trappe, le check avec chacun des astronautes qui allait sortir. Enfin, c'était assez incroyable. Et puis, effectivement, alors, ils sont encore en train de tourner. Ils vont tourner encore pendant 2 jours, parce qu'ils ont plein d'expériences à faire. Mais voilà, au moins, cette partie du voyage est réussi. Et puis, on imagine et que le reste va se poursuivre sur le même
tonalité. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on sort de ce truc-là? On voit...
La Terre.
La Terre, voilà. Et on la voit très bien, on voit sa rotondité, on voit véritablement que c'est une boule. Enfin, pour tous les platistes, là, c'est vraiment un coup de poing dans la figure.
On ne sait pas, c'est peut-être retrouvé. Hein.
Oui, c'est peut-être un immense écran Samsung, hein, comme on a derrière, là, qui est collé et qui vous montre la Terre ronde. Non, mais c'est dingue, on en rigolait tout à l'heure avec Fred Simotel. Mais vous savez que là, t'es platiste, tu vas là-bas, tu sanglotes quand même un peu. Bon, enfin bref. Et donc, on voit la rotondité de la Terre. Ça doit être incroyable. Qu'est-ce que ça vous inspire tous les deux, tout ça?
Ça fait rêver, c'est le rêve de tous les enfants, quoi. Là, il y a des cosmonautes et c'est des civils. C'est-à-dire, c'est un milliardaire, donc il a pu mettre le
50 millions.
Oui, il a mis un billet qu'on n'a pas à mettre demain matin, mais c'est quand même c'est le rêve, quoi. Tu rêves d'aller dans l'espace.
Je pense que la liste est longue. Hein. La liste est
oui, à mon avis, tu as des candidats. Et 50 millions, ça reste un ticket. En fait, c'est pas si cher pour les grandes fortunes.
Lui, il a une fortune.
Il y a combien de milliardaires dans le monde?
Beaucoup.
Il y en a beaucoup, donc voilà. Tu as du monde qui a les moyens de se le payer.
Sa fortune est évaluée à 1800 milliards. Donc voilà, rapporté à. C'est comme si quelqu'un qui avait 1800 euros dépense 50 euros.
1,8 milliard, tu as rajouté
1,8 milliard, mais c'est comme si quelqu'un qui avait 1800 euros dépensait 50 euros.
Non, mais il faut 25 mecs pour le rembourser. Donc ça va, en fait, à 50 millions. Par contre, moi, ce qui me frappe, c'est ce sens du show de Elon Musk. C'est-à-dire cette mise en scène, cette scénarisation, tu viens de nous décrire, on y était, là. Il ouvre la trappe, après il y a le cordon, après il y a le ventilo qui tombe du plafond et il panique. Non, mais.
Et puis avant, même il y a le capuchon qui s'est ouvert.
Tout le truc au ralenti et tout. Et même la tenue de ces spationautes est incroyable. On se croirait dans 2001, Odyssée de l'espace. C'est futuriste, il n'y a pas les câbles partout. Enfin, il a quand même ce sens du show et il arrive à préempter des sujets. Parce qu'en fait, j'ai pas suivi, j'imagine qu'on n'est pas trop loin de la Terre non plus par rapport
à 700 km.
Ah, c'est, on est loin quand même.
Si, si, si. Ils sont, en fait, au départ, ils sont montés à 1400. Donc, ils sont dans l'espace depuis 3 jours. Ils sont montés à 1400 km d'altitude, ce qui est la plus haute altitude avec un vol habité depuis Apollo. Ensuite, on les a vus descendre. Alors, je pense que c'est la trajectoire, elle est hélicoïdale. Ouais. Donc, à un moment, vers midi et quart, ils étaient à 800 km de la Terre. Et puis, ensuite, à une heure moins le quart, ils n'étaient plus qu'à 200 km. Et puis, ils sont repartis. Et on voyait, ça correspondait au-dessus des États-Unis, ils étaient à 200 km de la Terre. Et ils ont poursuivi et puis s'éloigner vers le Moyen-Orient, ils allaient vers l'Asie. Et on voyait la distance. Et ils sont sortis où ils étaient à 700-800 km.
Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça fait longtemps qu'on s'est envoyé des gens à cette distance-là dans l'espace, des professionnels. Sauf que lui, il le met en scène. Et donc, on va tous dire, c'est Elon Musk qui a emmené les premiers touristes spatiaux. Et on oublie complètement le truc de Bezos, là, il y a deux ans.
L'origine.
Qui existe toujours, mais le voyage qu'il avait fait, les images sont pas aussi frappantes que ça. On les voit scotchés dans leur chaise, dans leur fauteuil au moment du décollage. Là, c'est une image de cinéma, il nous raconte une histoire. Donc, c'est comme ça qu'il préempte le sujet. Là, tout le monde va dire, c'est Musk qui a emmené les premiers touristes spatiaux. Fort.
Alors, Jérôme.
Moi, je trouve que ça, c'est impressionnant. Je pense qu'on est tous d'accord. Par contre, je me demande à quoi ça sert. Parce que. Non mais c'est vrai, ça sert à envoyer des milliardaires dans l'espace. Alors le tourisme spatial, moi je comprends pas l'intérêt du tourisme spatial. Enfin je le comprends parce que j'aimerais bien y aller moi. Très honnêtement, si j'avais 1 milliard d'euros, j'irais me promener dans l'espace. Mais à quoi ça sert en fait? Quelle est l'utilité? Quelle est toute l'énergie qui est déployée pour faire ça? Et ça sert un peu à rien en fait. Donc
je suis pas d'accord.
Parce que alors
vu, il y en a deux en plus là. Là c'est bien
première
pas,
chose.
C'est deux contre un.
D'ailleurs on le voit là. Si vous nous regardez en télévision, on voit il bouge son bras. Donc
non mais il teste.
Ils font des tests.
Non mais d'accord. Mais il teste pourquoi? Pour envoyer des touristes plus tard. C'est pas des tests pour aller faire des missions scientifiques.
Et le projet s'appelle Polaris Dawn. Donc Polaris étoile polaire, puis Dawn c'est l'aube. Donc pour eux on est au départ d'un nouveau.
Oui c'est le départ. Le rêve de Musk c'est d'aller sur Mars, coloniser Mars. Oui on sait.
Donc on est là-dessus. Ils ont testé toutes les communications spatiales à travers les Starlink quand on sera plus loin que la Lune, comment va marcher tout ça. Ils vont faire la Sireste 2 jours encore dans l'espace. C'est pour faire quelques expériences.
Non mais je suis d'accord avec toi. Moi je dis pas que ça sert à rien pour leur projet. Mais en fait c'est quel est le but du projet à la fin à la base quoi. C'est faire du tourisme spatial. L'idée c'est ça, ou coloniser Mars. Mais bon j'y crois quand même un peu moins.
C'est faire du tourisme spatial, que ça lui rapporte de l'argent. Et qu'en même temps, ils récupèrent plein d'informations pour rebondir et aller plus loin, la Lune, puis Mars.
Moi, je trouve, par exemple, c'est assez paradoxal par rapport à la mission de Tesla. Tesla, c'est de l'électrique, on va décarboner le transport. Et là, on va envoyer des fusées qui consomment du kérosène. Je ne sais pas comment c'est pas du kérosène, je ne sais même pas ce que c'est qui propulse les réacteurs.
Hydrogène, non? C'est pas de l'hydrogène.
Oui, c'est du mélange, il y a de l'oligol et tout ça.
Ah, c'est pas propre, en tout cas.
Je ne pense pas que ce soit.
C'est pas de l'électrique.
Enfin, en même temps,
je pense pas que ce soit hyper vert.
Non, mais tu envoies un satellite à la limite. Ok, t'as une utilité pour avoir un satellite. T'envoies des gens et le but, c'est quand même de multiplier les envois, de multiplier les missions de tourisme pour pouvoir dégager de l'argent, pour pouvoir financer d'autres projets. Je trouve que c'est assez paradoxal par rapport à la mission qui est celle de Tesla, par exemple.
Oui, mais là, c'est mettre des humains en conditions réelles.
Je pense que c'est vraiment. Enfin, l'épopée spatiale est un long chemin qui a commencé il y a 60 ans et qui ne se terminera jamais. Et je pense que là, on teste en fait deux nouvelles technologies qui, comme le disait Fred, permettront peut-être d'aller un petit peu plus loin, d'abord sur la Lune et puis après sur Mars.
Bien sûr.
Et effectivement, tu peux te dire à quoi ça sert, mais j'imagine qu'il y a énormément de capteurs partout et que c'est une mine d'or de remontée technologique.
Rien que le fait qu'ils soient allés jusqu'à la thermosphère, qu'ils soient allés aussi haut, tu vois, ils vont redescendre, ils vont récupérer plein de.
Non, mais ça, je suis d'accord avec ça, mais c'est juste la finalité du projet, c'est pas la NASA qui a des finalités scientifiques. Là, c'est une finalité qui est commerciale. Alors après, c'est bien, c'est pas bien.
Déjà, ça marche.
Oui, ça c'est sûr. Et en tout cas, c'est quand on voit, par exemple, ce qu'on a fait avec Boeing la dernière fois, le Starliner, où ça n'a pas du tout marché, Musk, il réussit, il délivre. Enfin, quand il fait quelque chose, il le fait plutôt bien. C'est rare qu'il ait des échecs.
C'est rare que ça marche.
Et comparé à la NASA, ils veulent faire une nouvelle fusée. Ça fait des années que le lanceur, il est. On ne sait même plus où il en est. Là, au moins, ça avance, quoi, très vite.
Et puis là, ils ont dû croiser deux astronautes qui sont bloqués, qui devaient partir une semaine et qui sont bloqués.
Un petit coucou, en
février ou mars. Hein.
Là, ils vont bientôt redescendre, non? Dans combien de temps, là?
Ouais, dans février.
Mais ils redescendent en SpaceX, d'ailleurs.
Oui.
Je dis pas de
non, mais je te parle pas de Polaris. Des gars de l'ISS. Hein.
Polaris, ils redescendent dans deux. La mission dure 5 jours.
Donc ils redescendent là bientôt.
Donc ils ont encore 2 jours. Donc ils ont tout un tas d'expériences biomédicales, ce genre.
Ah, il y a quand même des expériences.
Ah oui, ils feront plus de sorties dans l'espace. Okay. Ça c'est clair. Enfin, ça faisait partie un peu du
projet, du programme.
Du programme. Et derrière, ils ont des expériences biomédicales. Ils vont
50 millions, il faut quand même qu'il y ait un peu d'activité.
Ouais. Mais bon, à mon avis, c'est que. Surtout qu'ils sont. Pour 50 millions, ta chambre, elle a l'air spartiate, quand même. Enfin, je veux dire, là, t'as pas la machine Nespresso.
Non,
hein,
c'est sûr.
J'ai l'impression que c'est un peu quand même.
Et ce qui est bien, c'est que le milliardaire, c'était lui le commandant. C'est lui qui a.
Ah, c'est drôle.
C'est un ancien pilote de chasse, en fait.
Ah, oui.
Oui. Oui, oui, ça.
Et il a fait, il a fait fortune dans les systèmes de paiement et tout ça.
Okay. Oui, et puis il a une entreprise aussi qui loue des avions de chasse à l'armée américaine. Voilà.
Bon.
Qui s'appelle, j'ai oublié le nom d'ailleurs.
Tout va bien pour lui. Oui. Tiens, il se trouve qu'il y a une semaine tout pile, je recevais sur le plateau de Tech & Co Sylvain Chiroux. Et je vous dis ça parce que on est à peu près dans la même histoire. Hein. Sylvain Chiron, c'est un Français qui a réussi dans la brasserie. En fait, il a créé des bières et il a vendu son entreprise plusieurs millions. Il est devenu riche et son rêve, c'était de participer à l'une des premières missions de Blue Origin. Et il a participé à Blue Origin et il est venu sur le plateau Tech & Co. Il était à ta place, Hugo, la semaine dernière et il nous a raconté son périple. Tout ça pour vous dire, évidemment, cette interview, c'était passionnant et ça a retrouvé en replay. Sur BFM Business, c'était le 5 septembre dernier, c'était il y a une semaine tout pile. Alors c'était moins, évidemment.
Il n'a pas payé 50 millions.
Non, il paye beaucoup moins.
C'est moins cher, Blue Ridge.
mais bon, c'est déjà le prix d'un petit appart. Hein,
je crois que c'est un demi-million, je crois, de mémoire, mais quelque chose comme ça.
Ah, on ne va pas entrer dans les détails, on n'a pas le droit. Mais il n'est pas sorti dans l'espace, mais en fait, il était dans une capsule qui a été propulsée. Et il a vu la rotondité de la Terre. Il avait de grands hublots. Puis après, il est redescendu.
Ça me fait réfléchir à ce que tu dis parce que c'est vraiment le fantasme de tout le monde. En fait, l'humain a envie d'aller dans l'espace. C'est la dernière limite, quoi. Ça et les grandes profondeurs. Donc, tu vois, quand on parle de cet entrepreneur qui son kiff, c'est d'aller faire Blue Origin. En fait, ça a quand même un sens parce que toute l'exploration spatiale, tout l'argent qui est investi, à la fin, il faut bien qu'il bénéficie à l'homme. C'est la mission de Musk de nous emmener sur Mars, de faire de nous une espèce multiplanétaire. Donc, moi, je trouve que ça a un sens quand même d'envoyer un civil se balader 2 minutes à l'extérieur de sa.
Et puis, c'est une. Et surtout, et d'ailleurs, on en est la preuve vivante, c'est un immense coup de com.
Bien sûr.
Voilà. Ah bah c'est le but du jeu d'Elon Musk qui, comme tu le dis, justement, filme tout. Tout. Tout est filmé. Voilà pour cette belle aventure.
C'est l'une des trois. Il y a 3 missions prévues. Hein.
Ouais.
La dernière doit être sur la grosse fusée Super Heavy. Ouais.
Ah oui, qui est censée emmener les.
Qui est censée être la fusée qui va sur Mars. Hein,
mais oui, qui va d'abord sur la Lune.
Oui, d'abord, il faut aller d'abord, il y a la mission sur la Lune, après Mars.
On fait le plein et puis on repart.
Oui, ça pourrait être la mission d'Artemis, c'est ça de la NASA, je crois, la mission de la NASA.
La mission de la NASA, elle, c'est. Alors, elle est en plusieurs parties. La première fois, on tourne juste autour de la Lune.
Voilà, mais ça serait la fusée d'Elon Musk.
On simule un atterrissage. La troisième fois, on atterrit. Puis la quatrième fois, on fait sortir les gens.
Ouais. Sujet un peu plus terre à terre et un peu moins rigolo, mais c'est la vie aussi de la tech, c'est la déconfiture dans l'industrie des jeux vidéo. On n'en parlait pas plus tard qu'hier avec Ubisoft, hein, Fred. Et on poursuit là avec Microsoft. Microsoft qui a annoncé encore une vague de licenciements. Après les 1900 licenciements précédents, c'était au début d'année, avec difficulté, Microsoft a réussi à racheter Activision Blizzard.
C'était réglementaire, hein, ils avaient l'argent, ils l'avaient.
Oui, mais il y a eu plein de rebondissements qu'on avait suivis à l'époque.
Royaume-Uni,
l'Europe au début qui n'était pas chaude, enfin, etc., etc. Ils y sont arrivés, mais après, quand ça a été acté, ils ont dégraissé, ce qui est un peu. On va dire un peu normal, parce que il y avait sans doute plein de doublons, il y avait énormément de studios, etc. Mais là, on s'attendait pas à cette deuxième vague de licenciements. 650 personnes. Alors, Bill Spencer, qui est l'un des boss de Microsoft et du jeu vidéo, explique que ça ne va pas impacter tous les développements actuels, et ça ne va pas arrêter certains programmes. Mais malgré tout, quand on calcule ces licenciements, quand on regarde ce qui se passe un peu chez Tech2, il y a eu d'autres licenciements. Enfin, ça n'arrête pas hein, dans le monde du jeu vidéo. Il y a un mal-être en ce moment.
Il y a beaucoup de licenciements parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé durant le Covid
parce que les gens étaient à la maison, donc il y a eu beaucoup de gens qui ont acheté des jeux vidéo, et donc ils ont peut-être sur-embauché, les actions sont montées très haut, et donc du coup aujourd'hui les actions baissent, donc quand l'action baisse, pour rassurer les investisseurs, ben, on coupe dans les coûts, la profitabilité baisse, les marges baissent, donc voilà. Microsoft, c'est un peu le même cas, pendant des années, ils ont perdu de l'argent avec Xbox, enfin on ne sait pas trop, parce qu'ils ne communiquent pas les chiffres exacts de Xbox, mais on sait que ça n'est pas très très rentable. Pendant des années, Microsoft n'a rien dit, et là, ils viennent de racheter, ils ont dépensé 70 milliards de dollars pour acheter Activision, et on a l'impression que Satya Nadella, donc le patron de Microsoft, dit à Xbox, bah, attendez, maintenant, voilà, on arrête les bêtises, il faut que moi j'ai dépensé 70 milliards de dollars, il faut que j'ai de l'argent qui revienne. Donc il y a des licenciements qui s'expliquent par le fait qu'il y a des redondances, parce que le service marketing, on n'a pas besoin d'avoir différents services marketing, des choses comme ça. Et il y a aussi la volonté de baisser les coûts de Xbox, parce que pour essayer d'être rentable, il y a également, enfin, ils vont mettre leur jeu sur PlayStation aussi pour essayer d'augmenter le chiffre d'affaires.
Oui, parce que Xbox a perdu la bataille contre Sony, c'est un fait.
Oui, ça fait très longtemps qu'ils l'ont perdu, oui, je pense qu'ils n'ont jamais...
Il faut rappeler que c'est une division quand même d'un peu plus de 20 000 personnes. Hein. Enfin, avec Activision, ils avaient racheté Bethesda, Activision Blizzard, et puis là, la propre division de Microsoft Xbox. Donc, bon, ça fait du monde. Et effectivement, il y a toutes ces fonctions. Et puis, c'est ce qu'on disait hier, hein, le marché du jeu vidéo est en train de se transformer. On consomme plus de jeux vidéo comme avant. La population peut être attirée par autre chose que les jeux vidéo. Hein. On fait du streaming. En dehors du jeu vidéo, voilà, on peut aller regarder. Enfin, il y a plein de plateformes pour voir des vidéos. Le jeu vidéo est en train de changer, on joue beaucoup plus sur mobile. Le business model aussi est en train de changer, puisque parfois on joue en jeu gratuit et puis on est en jeu gratuit et puis tout d'un coup on se met à acheter derrière des fonctions. Donc si on s'adapte pas à tout ça, et puis après il y a la qualité des jeux, enfin faut un peu étonner les joueurs, hein, qui sont un peu saturés, hein, de tous ces... On a vu Sony il y a quelques jours qui sortait son jeu Concorde, ils l'ont retiré au bout de 15 jours parce que les gens étaient déçus. Là on voit Ubisoft, on en a parlé hier avec son jeu Star Wars, voilà, qui répond pas à tout. Donc voilà, au-delà de ça, il y a toute cette concurrence, et le développement, ça coûte cher, il faut réduire un peu les coûts. Donc
et ce qui est nouveau aussi, c'est que par rapport à il y a 10 ans, aujourd'hui, si on regarde les jeux qui sont le plus joués au monde, c'est toujours les mêmes en fait. C'est Fortnite, c'est Call of Duty, c'est FIFA, ça s'appelle plus FIFA maintenant, et c'est toujours les mêmes. Et donc c'est de plus en plus difficile de faire acheter son jeu, des nouveaux jeux aux gens en fait. Et donc c'est pour ça que Ubisoft par exemple est en difficulté, parce que Ubisoft c'est de créer des gros jeux qui coûtent très cher et qu'il faut payer, payer 60-70 euros pour les avoir. Et ce modèle, il est en train un peu de baisser par rapport aux jeux gratuits et aux jeux qu'on appelle live service, où on joue pendant des années et des années, où il faut rajouter du contenu à chaque fois.
Hugo, ça t'intéresse?
Ouais, ça m'intéresse. Bah, déjà, moi je joue beaucoup, donc ça m'intéresse, mais je crois que les jeux vont être...
Tu joues sur PlayStation ou sur Xbox?
PC.
PC, d'accord, ouais. Ok.
Mais tu partages beaucoup de jeux entre la Xbox, oui, évidemment, le PC.
Et tu joues à quel type de jeu? Moi, je rentre dans les détails.
Dans mon intimité. Alors moi, le jeu que je ponce, c'est Age of Empires, le dernier qui est sorti. Et là, ils viennent de faire un spin-off qui s'appelle Age of Mythology, donc je peux te parler pendant des heures.
D'accord. Ok.
Ne me croise pas dans les salons parce que je suis classé dessus. Je suis sérieux.
C'est vrai?
Joueur sérieux, bien sûr. Mon alias, c'est iDefense6Back. Si vous voulez me suivre, vous me regardez, vous pouvez regarder. Mais là, de ce que j'ai compris, c'est
Hugo Borenstein, quoi. Ouais. On a une star du jeu vidéo.
Non, pas une star, mais sur ces jeux-là, je touche un peu. Quoi.
Ok. Ouais, très bien. Bravo.
On peut faire une petite partie, si tu veux.
Ouais.
En direct,
tu m'expliqueras.
Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas les fonctions de ce que tu disais, non, c'est les fonctions support, je crois. Donc oui, c'est ressources humaines, support, market,
oui, c'est ça.
Donc ça, c'est de la rationalisation. Par contre, ce que j'ai vu en arrivant,
mais ils l'ont déjà fait, ils ont déjà supprimé 2000 emplois. Donc pourquoi ils le font aujourd'hui alors
qu'ils ont déjà parce que c'est Q4, c'est le dernier trimestre, donc il faut que ça cartonne niveau perf et il faut
dégraisser au maximum.
À la cote, quoi.
Tu disais par contre.
Non, par contre, ce qui est intéressant, en venant dans le taxi, j'ai vu que OpenAI venait de lancer un nouveau modèle qui s'appelle, ce que j'ai vu dans le taxi, 4O, je crois, et qui est 1O, et qui est spécialisé dans le développement de code pour les jeux vidéo. Donc j'ai trouvé que ça faisait un petit contraste, parce qu'on sait que Microsoft est quand même à la barre derrière OpenAI massivement, et le jour où ils annoncent des layoffs dans des fonctions à nouveau support, pas de développement, mais dans le jeu vidéo, un nouveau modèle OpenAI sort qui permet d'accélérer les workflows.
Mais il y a déjà beaucoup d'IA dans le jeu vidéo, de toute façon.
Oui, il y a plein de choses, c'est sûr.
Donc ça aussi, après, c'est une des craintes de l'industrie.
Et puis au niveau des développeurs, aujourd'hui, on estime que c'est, la productivité gagnée, c'est 15% à peu près quand tu discutes avec
les développeurs. C'est énorme pour les volumes.
Après, sur 20 000 personnes, je sais pas, en plus avec des développeurs qui sont souvent très très bien payés, alors on va garder les meilleurs, mais derrière, si tu peux automatiser certaines fonctions. Donc, mais je pense que c'est. Si tu veux, il y a toujours dans ce marché du jeu vidéo, là, c'est des planètes qui ne s'alignent plus, enfin, ou qui s'alignent, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire, il y a vraiment un taux d'engagement des joueurs qui est beaucoup moindre, des jeux dont on se lasse un
peu, une saturation, donc un peu de saturation du marché, un nouveau business model bon, qu'il faut repenser. Donc voilà, il y a tout ça.
Ce que tu as dit aussi sur la polarisation autour de grands titres, parce que Fortnite, c'est 400 millions d'utilisateurs. Donc c'est plus gros que Snap. Hein.
C'est
gigantesque ce en termes de réseau social, en termes d'audience. C'est
Microsoft, ils ont acheté Candy Crush, World of Warcraft, et puis quel est le
Call of Duty.
Ouais, Call of Duty, voilà. L'autre jeu connu de...
Et puis il y en a d'autres, il y en a plein d'autres.
Ouais, enfin, rien que ces trois-là déjà.
Bien sûr, oui, c'est clair. Snap, hein. C'est clair. Et puis, il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, je recevais vraiment des spécialistes du jeu vidéo. Il y avait un journaliste, on avait la patronne aussi du syndicat des logiciels de jeux vidéo. Non, c'était pas le CEL.
C'est SNJV.
SNJV, qui nous expliquait que il y a aussi beaucoup trop de jeux.
Bien sûr.
Simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trop de studios indépendants qui sortent trop de jeux et finalement, si tu veux, l'offre est tellement riche et la demande ne suit pas. Et donc, voilà, au bout d'un moment, tout explose. Et il faut qu'il y ait quand même une rationalisation de tout ça, qu'il y ait moins de studios, moins de développement, moins de jeux aussi, parce que, comme tu le disais, le Covid, bah, il n'y en a plus. Les gens ressortent, jouent moins aux jeux vidéo, on revient à une vie normale depuis pas mal d'années, et ça pose un problème.
Une vie normale, et puis ils passent plus de temps, tout d'un coup, ils vont regarder les trois vidéos TikTok, et puis ils sont embarqués sur deux heures.
Bien sûr, aujourd'hui,
pas deux heures. En même temps, Steam, donc la plateforme de jeux PC, enregistre des records et des records de joueurs. C'est juste qu'on joue à des jeux différents, en fait.
Et tu peux jouer à des petits jeux qui sont fabriqués dans la cave avec deux mecs qui ont une idée géniale. Les graphismes vont être dégueulasses. Le jeu est tout bête, mais il est hyper addictif. Il va cartonner. Mmh. C'est ça, le truc. Mmh. Et à côté, t'as des jeux qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros.
Et qui coûtent de plus en plus cher, en fait.
Tetris.
Mais...
Tu connais Tetris, Hugo ?
Ouais, quand même. Ouais,
quand même. Non, parce que comme t'es beaucoup plus jeune que nous et que alors, nous, on est des vieux boomers.
Il y a pas une reine plus bête que Tetris, quoi.
Snake,
Snake aussi. Ouais. Bravo. Bon, écoutez, après cette petite parenthèse nostalgie du jeu vidéo, on va revenir dans un instant. On va continuer sur le jeu vidéo avec cette plainte d'associations qui sont dans le jeu vidéo et qui pointent du doigt le fait que les jeux gratuits, bah, en fait, finalement, ne le sont pas vraiment. Et les enfants qui téléchargent ces jeux, croyant que c'est gratuit, avec les parents qui croient que c'est gratuit, sont souvent tentés d'acheter des petits bonus, etc. Et ça peut coûter beaucoup d'argent. On va en parler dans un instant parce que, ben voilà, est-ce que cette pratique est tout à fait normale, logique ? Tech & Co, la quotidienne, revient avec Hugo, avec Jérôme et Fred dans un instant, juste après cette petite pause. Ne bougez pas.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, nous sommes de retour. Merci d'être là. Bienvenue sur BFM Business. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Hugo Borenstein qui est là ce soir pour débriefer l'actu. Nous avons aussi Jérôme Marin et Frédéric Simotel. On reste dans le jeu vidéo après cette course effrénée au licenciement du côté de chez Microsoft. On enchaîne avec les éditeurs de jeux vidéo qui sont visés par une plainte pour pratique trompeuse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pour résumer, aujourd'hui, vous avez deux types de jeux vidéo. Des jeux que vous payez et dont vous pouvez, que vous utilisez tout de suite. Voilà, qui coûtent quelques euros et c'est réglé. C'est des jeux de casual gaming. Et puis vous avez aussi, et ça c'est l'immense majorité du business aujourd'hui, des jeux freemium, c'est-à-dire que vous téléchargez le jeu, vous le savez, tête, etc., qui sont totalement gratuits. Mais si vous voulez par exemple aller plus vite, si vous voulez débloquer des niveaux parce que vous êtes pas si bon que ça, si vous voulez acheter des petits bonus, des petits trucs comme ça, et bien là, vous devez mettre la main à la poche. Et c'est ce que reproche en fait cette association auprès de ses éditeurs, c'est que c'est un peu opaque tout ça. On n'explique pas très bien que quand on télécharge un jeu gratuit, c'est pas forcément gratuit, et que les enfants qui sont les principaux visés de ces jeux-là sont tentés pour acheter des petits bonus. Et ça peut coûter cher, hein. Il y a des moyennes de 40 euros par mois quand même pour certains jeux, et ça fait beaucoup. Hugo, sujet qui t'intéresse.
Écoute, ouais, ça m'intéresse parce que moi je suis un peu choqué par cette plainte. Est-ce qu'on peut laisser les gens faire ce qu'ils veulent ? Est-ce qu'on peut laisser les gens tranquillement débloquer un niveau de débloquer un niveau en plus ?
Ce que disent les associations, ils disent pas qu'il faut pas qu'il y ait des microtransactions.
Non, mais il faut qu'on informe plus.
Voilà. Ce qu'ils disent en fait, c'est que aujourd'hui tous les jeux vidéo ont créé des monnaies virtuelles. Et donc si tu veux 100, je sais pas comment ça s'appelle, il faut payer 10 euros et puis voilà. Et donc ils disent au bout d'un moment, comme c'est de la monnaie virtuelle, tu ne sais pas combien ça coûte vraiment. Parce que tu vas acheter avec cette fausse monnaie. Et donc, ils disent ça trompe les consommateurs parce que tu achètes quelque chose sans savoir vraiment le prix. Et donc, ce qu'ils réclament, c'est qu'il y ait au moins une information. On dit ça vous coûte tant de monnaie virtuelle qui correspond à tant d'argent réel. Donc, ça, c'est la plainte, en fait, qu'ils disent.
Ouais. Et c'est notamment enfin, les achats intégrés dans les apps Apple, parce que si on parle du mobile, c'est flagué en gros que tu vas payer 2,99€ tes 100 coins. Oui. Il n'y a pas de GMP pour acheter des coins. Quand t'achètes, en fait, non, mais le problème de ces trucs, c'est qu'on prend les gens pour des débiles, en fait. On sait consommer.
Non, mais c'est pas les gens, c'est les enfants.
Oui, après, c'est du contrôle parental. Mais en fait, si tu veux acheter dans un jeu vidéo, tu dois pouvoir acheter dans un jeu vidéo.
Mais c'est pas ça. C'est pas ce qu'ils reprochent. En fait. C'est qu'ils informent pas en amont du fait que tu as la possibilité.
Si tu achètes sur Apple, comme la plupart des gens font, il y a écrit, ça apparaît, il y a écrit
oui,
tu vas te prendre 2,99€.
Tu prends Fortnite. Oui. La monnaie des Fortnite, c'est des V-Bucks.
C'est ça.
Oui. Et ben, 1000 V-Bucks, ça coûte 9€.
Oui.
OK. Et ben, il faut. Pour te rendre compte que ça coûte 9€, il faut aller loin dans le processus d'achat pour que tu te rends compte que ça coûte 9€. Et en fait, ce que reprochent ces associations, c'est que quand tu télécharges le jeu, tu devrais avoir une espèce de disclaimer qui dit ben ce jeu repose sur une monnaie virtuelle qui sont les V-Bucks, vous aurez la possibilité dans le jeu d'acheter 1000 V-Bucks pour 9€.
Mais c'est le cas.
Si,
c'est le cas. Tu peux pas avoir... sur un mobile, tu peux pas acheter un achat intégré sur l'App Store sans que ce soit.
Alors, je me suis mal exprimé. C'est quand tu vas commencer à jouer, tu ne sais pas, en fait, que tu dois acheter ça.
Et c'est là où je réagis en disant, en fait, il faut laisser les gens jouer. Si tu n'achètes pas tes coins, tu es bloqué, tu ne peux pas jouer. Donc, tu dois payer pour débloquer des niveaux. C'est le modèle freemium du gaming, c'est le modèle freemium en général. Moi, je vois pas où est le problème.
Non.
On doit te dire que ça coûte de l'argent. On doit pas te dire achète des coins virtuels. Et après, t'es débité. Mais aujourd'hui, c'est le cas. On est assisté et on ne nous laisse pas consommer comme on veut.
Non,
les enfants, je suis d'accord.
Non, mais c'est pas, encore une fois, ils veulent pas que les microtransactions soient interdites. Ils veulent que ce soit clair quand tu dépenses 10 V-Bucks, par exemple,
oui.
Tu as une équivalence de savoir combien ça coûte en vrai, combien tu as payé en vrai. Parce que si tu n'es pas.
J'ai pas compris le point. Parce que pour moi, si tu me dis je paye 10€ et j'ai 50.
Mais toi, quand tu payes. En fait, ce qu'ils disent, c'est que
j'ai compris que j'ai payé 10€.
Oui, t'as payé 10€ pour tes 50.
Ouais.
Mais quand tu vas acheter après, tu vas acheter 5, 2, 3, tu te rappelles plus combien tu as payé forcément pour tes 50. Et donc, ils disent ça crée une confusion et ça fait que tu ne sais plus le vrai prix de choses parce que c'est de la monnaie virtuelle. Et donc, tu peux dépenser plus que ce que tu aimerais dépenser parce que comme c'est de la monnaie virtuelle, c'est pas forcément, tu peux pas savoir.
Tu perds un peu la réalité de la vraie monnaie, quoi.
Exactement,
c'est ça.
Pour moi, quand je recharge mes coins, j'en rajoute 100, ils m'affichent que je vais payer 9€.
Non, mais ça, c'est très bien.
Et donc, je suis au courant que je paye 9€.
Oui, mais tout le monde ne sait pas après quand tu rejoues et quand toi tu achètes.
Tu sais pas ce que tu dépenses dans ta monnaie virtuelle, mais tu sais bien comment tu l'as acquise.
D'accord, mais après, en fait, c'est ce qu'ils disent, ça crée une confusion. Et quand tu achètes ta monnaie virtuelle une fois par mois, par exemple, après le 20, tu te rappelles plus que 100 V-Bucks, c'est 10€, machin. Donc, en fait, c'est ce qu'ils reprochent. Après, ça s'entend, ça s'entend pas,
si
mais en tout cas, c'est
leur
reproche.
Après, on est encore sur l'histoire de responsabilisation des gens, quoi. Enfin,
non, on est dans un monde maintenant où c'est la boîte qui doit faire à ta place, on doit tout prévenir, on doit tenir la main,
mais c'est
plus responsable de rien.
Non, mais
c'est ça qui philosophiquement qui me va pas dans ce truc.
Non, après il faut être honnête, les éditeurs de jeux vidéo, ils ont des pratiques qui sont là pour te pousser à acheter.
Oui.
D'accord. Donc il y a très peu de réglementation sur ça aujourd'hui. Il y a les loot box où on avait un moment où est-ce qu'on voulait considérer ça comme de la loterie. Ils ont réussi à que ce soit pas considéré comme de la loterie, notamment FIFA, il y a football, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, que ça soit plus considéré comme de la loterie. Donc ça déjà ils ont gagné. Le truc c'est que T'as des comportements les consommateurs, ok, ils ont leur libre arbitre et tout, mais si t'as des comportements qui te poussent à acheter, qui te poussent à être dépendant, des choses comme ça, on peut aussi réguler, on peut dire, c'est pas normal et on le fait avec les réseaux sociaux, pourquoi on le ferait pas avec les jeux vidéo?
Moi, je suis pas pour qu'on le fasse avec les réseaux sociaux, donc c'est là où je suis pas d'accord, et philosophiquement, c'est ce que tu viens de dire, je trouve que c'est à l'individu de se gérer, un enfant, je suis d'accord, il y a un contrôle parental, il doit pas pouvoir mettre la carte bleue tout seul, acheter dessus, c'est déjà le cas, hein. Aujourd'hui, tu accordes des minutes de temps d'écran à tes enfants, tu peux leur accorder un crédit pour acheter des skins dans Fortnite. Mais moi, ces mouvements-là où la force publique régule à la place de responsabiliser l'humain, en fait, c'est sympa, mais on fait une société d'assistés et puis on empêche les gens de se divertir.
Moi, c'est le terme pratique trompeuse, quoi. C'est pas pratique trompeuse, c'est parce que les gens, ils connaissent rien, ils se font avoir. Mais...
Non, mais alors, je pense que vous avez tous raison, alors je veux pas. Mais il manque peut-être un peu plus d'informations lorsque tu débutes le jeu, qu'il y a une monnaie, tu vois, une explication, surtout pour les jeunes, en disant, ben voilà, vous allez dans ce jeu avoir des V-Bucks, ça va vous coûter, si vous en achetez 1000, 10 euros.
Je suis désolé, mais là, t'as un âge aussi, c'est marqué, hein, alors si on respecte, il y a les âges, un jeu interdit au moins de 12 ans, de 16 ans, etc. Les enfants.
Ouais, là, mais sont, Fred, ouais, mais ça, c'est très bien.
Mais non, mais. Je veux dire que les enfants, ils sont en mesure de comprendre. Enfin, si ça s'affiche, enfin, je vois. Moi, je vois pour Fortnite.
Il y a plein de gamins qui ont 12-13 ans.
Fortnite. Mon fils, il avait 9 ans, il a tout de suite compris que dès que tu veux avoir quelque chose, il fallait payer. Hein. Mm. Et donc, pour ses anniversaires, il demandait des cartes et ce genre de choses.
Ça coûte rien aussi à Epic de dire, voilà, tu dépenses 10, ça coûte dans la vraie vie, ça coûte tant d'euros.
Tu dis, c'est l'histoire de la monnaie virtuelle.
C'est ça qui.
Je vais dépenser 40.
Et donc tu dis ça, tu ne sais plus combien tu dépenses. Et donc ce qu'il réclame, c'est juste que tu as écrit le prix en monnaie virtuelle et une correspondance en monnaie réelle en fait. Juste ça, c'est ça qu'il réclame en fait. Et je pense que les éditeurs ne le veulent pas parce que les éditeurs se disent, si toi quand tu vas acheter 40 ou 50, bah, tu les as, tu te rends compte, tu ne penses pas. Mais si on dit, ah, finalement c'est 2 euros, tu dis, ah, est-ce que vraiment je vais dépenser 2 euros pour ça. Donc,
Il faut savoir qu'en 2020, bon alors c'était l'année du Covid, hein, c'est une année un peu bizarre, les achats à l'intérieur des jeux ont généré plus de 50 milliards de dollars. Voilà, oui, au niveau mondial.
Bah, et encore, je pense que c'est...
Bah, c'est ce qu'on dit.
C'était l'époque du Club Med à ses débuts. Hein. Genre, t'achetais ton collier de boules bleues, boules rouges, et puis tu vendais tes boules comme ça pour
connu, nous.
Ouais. Frédéric Simotel a connu. Alors, Frédéric Simotel a connu le Club Med à l'époque.
Au début.
Où la monnaie, bronzés, c'était des colliers de coquillages.
C'était les bronzés.
C'était ça.
Les bronzés, c'était ça.
Et oui.
Comme, pas d'argent.
C'est beau quand même, hein, de remonter le temps.
Tu as acheté un collier, enfin tes parents, tu as acheté un collier avec, et puis avec ça, tu allais acheter ta glace, ton machin, tout ça.
Bien vu.
Mais c'est le même principe en fait.
Ah oui,
tu oublies le coût des choses.
Et puis un beau jour, tu dis, ah, j'ai plus rien sur mon collier.
Eh bien, il faut retourner voir le géo et donner du cash pour remplir le collier.
Peut-être un mot sur le chiffre que tu viens de donner. Parce que tu dis qu'en 2020, 50 milliards de dépenses dans les jeux vidéo. Donc, c'est des gens.
Alors, attention.
Un marché à 200 milliards annuels, à peu près.
C'est à l'intérieur des jeux vidéo. Donc, c'est vraiment.
L'achat dedans,
oui. Oui, l'achat dans les jeux.
Donc, il y a quand même, c'est quand même gigantesque. C'est 25% du marché global si tu dis que c'est 200 milliards. Juste une remarque, mais on cherche le métaverse un peu partout, mais en fait le métaverse c'est le gaming, hein, parce que ce que t'achètes dans un jeu vidéo c'est une tenue pour ton avatar, c'est un skin pour ton arme.
Bah, Fortnite c'est une
paire de lunettes sur Fortnite,
c'est ça, hein.
400 millions de joueurs, donc c'est quand même des montants phénoménaux et ça devient complètement transactionnel. Moi à titre personnel, en tant que cofondateur d'Omi qui fait de la 3D, je suis ravi de voir des environnements 3D dans lesquels les gens consomment. Mais c'est fou, 50 milliards sur 200 milliards, c'est gigantesque.
Et à noter que dans cette, enfin, il y a plusieurs, on va dire plusieurs associations, dont UFC Que Choisir, hein, qui est dans
BEUC. En fait, qui regroupe des organisations de défense des consommateurs en Europe.
Voilà, on referme cette page. Hugo n'est pas convaincu, hein, ça j'ai bien compris. On enchaîne avec OpenAI. Et non, pas OpenAI, ça sera dans un instant. Auparavant, Apple Intelligence. Tout ça pour rebondir évidemment sur l'actualité de ces derniers jours. Je vous rappelle que lundi dernier, dans Tech & Co sur BFM Business, vous avez pu suivre la keynote d'Apple, les nouveaux iPhone 16. On va pas tout vous refaire l'histoire, hein. Les replays des émissions vous attendent si vous voulez revivre ce moment avec nous. Ce qui est intéressant, c'est que l'iPhone 16 va pousser dans quelques temps des fonctions d'intelligence artificielle qu'Apple appelle de manière plutôt rigolote et à droite, Apple Intelligence. Voilà, et modeste.
Et j'aime bien quand tu dis dans quelques temps. Parce que
c'est
exactement ça.
C'est ça, exactement.
On ne sait pas quand.
Alors, on sait que c'est dans un mois aux US, puisque ça sera un mois après la sortie de l'iPhone 16, qu'il y aura une mise à jour qui permettra d'avoir quelques fonctions d'Apple Intelligence. Mais, chez nous, en Europe, et notamment en France, on ne sait pas. Apple nous a balancé comme ça à la figure un 2025. Mais sans nous dire si ça sera au début, au milieu.
En 2025, c'est pour le français.
C'est pour
la disponibilité en Europe.
Non, c'est voilà. Mais comme on est en Europe, on peut imaginer.
Non, parce que ça sera disponible en français.
Mais pas en espagnol et pas en italien.
Mais ça sera, c'est quand Bard avait fait la même chose, Google. Ils ont dit c'est disponible en français, mais ça ne veut pas dire que c'est disponible en France.
Ah, d'accord.
Ah non.
Alors je pense que ça sera, s'ils disent, c'est que.
Non. Ah non, là, ils n'ont pas communiqué dessus. Et donc c'est 2025, on sait qu'il y a le français qui arrive avec d'autres langues. Mais ça ne sera pas forcément en Europe.
Ça ne sera pas forcément en Europe.
Le Canadien.
Ça va être sympa, tiens. Là, tu as encore douché mes espoirs. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'on commence à entendre cette petite musique qui revient régulièrement et qui dit que finalement,
Apple joue la montre avec cette histoire-là, que finalement, il pourrait sortir cette Apple Intelligence version française pour l'Europe et version européenne pour d'autres pays beaucoup plus rapidement, mais qu'il joue, en fait, que tout ça sera à cause du DMA. Vous savez, cette réglementation européenne qui régit, en fait, tous les principes marketing de ces grosses boîtes américaines. Et visiblement, l'Europe aurait son mot à dire dans Apple Intelligence. Mais en fait, c'est pas vrai, tout ça.
Ouais. Alors en fait, juste pour résumer, Apple a annoncé Apple Intelligence en juin, lors de la WWDC, et deux semaines plus tard, ils ont dit que ça ne sera pas disponible en Europe à cause du DMA, donc le Digital Markets Act. Et ils ont dit parce qu'il y a des problèmes d'interopérabilité et ça nous fait des incertitudes et on ne sait pas si ça sera toujours sécurisé. Et donc depuis lundi, moi je vois beaucoup passer ça sur LinkedIn notamment et ça m'énerve, c'est les gens qui disent « Ah mais c'est la faute de l'Europe, on régule trop et à cause de la régulation, ben là on ne peut pas utiliser Apple Intelligence ». Et en fait, si on regarde vraiment ce qu'il y a dans le DMA, il n'y a rien dans le DMA qui dit qu'Apple Intelligence ne peut pas être lancé en Europe. Il n'y a aucune disposition qui justifie qu'Apple Intelligence ne serait pas lancé en Europe.
Et d'ailleurs, il n'y a aucune communication de la part de l'Union européenne, bon, la Commission européenne, sur Apple Intelligence.
Non, ça, ils ne vont pas communiquer. Mais voilà. Et donc, Apple.
Ils ne se sont pas gênés de communiquer sur l'Apple Store, par exemple.
Oui, parce qu'Apple Store. En fait, bon, c'est parce qu'il y a des processus. Apple Store, c'est déjà sorti. Donc, ils ont déjà décidé qu'Apple Store était soumis au DMA.
Donc, ils pourraient communiquer là-dessus à partir du moment où c'est disponible.
Voilà. Mais en fait, et donc, il y a une petite musique qui est entretenue par Apple. Voilà, c'est la faute de l'Europe. Et en fait, non.
Oui, pour tout. Hein. La panne Microsoft CrowdStrike cet été, la panne mondiale. Ouais. Au départ, ils ont dit oui, c'est parce que l'Europe nous oblige à ouvrir certains. Non, mais c'est vrai. Hein. Mm. Au départ, ils ont dit c'est parce que l'Europe nous oblige à ouvrir certains ports sur nos logiciels et tout ça. Et du coup, les pirates ont pu rentrer. Bref, ce qui est complètement faux. Voilà. D'ailleurs, ils ont fait machine arrière assez vite. Mais ils ont encore dit que c'était la faute de l'Europe.
Et juste derrière, en fait, pour moi, la stratégie d'Apple, elle est très simple. C'est qu'Apple, on le sait, ils sont contre le DMA. Depuis, ça fait des années qu'ils critiquent le DMA. Et avec des termes, généralement, quand une entreprise, elle n'est pas contente, elle a toujours un vocabulaire un peu feutré, on garde un peu de... Et là, avec des termes très violents contre l'Europe, le jour notamment où le DMA a été voté. Et donc, ils ont clairement une dent contre le DMA. Et là, pour moi, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre la partie de l'opinion publique en disant, voilà, à cause de l'Europe, à cause de Bruxelles, vous ne pouvez pas avoir Apple Intelligence.
Et on prend en otage des utilisateurs européens d'Apple.
On les prend en otage sans les prendre en otage parce que, de toute façon, ce n'était pas prêt, de toute façon. Voilà. Donc, après, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'en 2025, quand le français arrive, ils vont dire, bon, finalement, ça sera en Europe ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, là, ils jouent le jeu de monter la population contre l'Europe, contre l'innovation et contre la régulation européenne qui serait contre l'innovation.
Je sens que Hugo, là, il veut parler.
Il n'est pas d'accord.
Je sens qu'il a la gueule du gars qui est un peu.
Il est pas d'accord.
Un peu, et qui n'est pas d'accord.
Il n'est pas d'accord. Voilà. Non, mais déjà que tu as plein de mecs anti-régulation dans ton feed, je ne vais pas t'embêter dans la vraie vie. On reste dans le feed. Moi, ça m'a l'air d'être surtout une grosse manœuvre de la part d'Apple. Je suis d'accord avec toi. Si on revient aux fondamentaux de ce produit, l'iPhone, il carbure au machine learning. Hein. Il est déjà full AI, l'iPhone aujourd'hui. Quand tu classes tes photos dans l'iPhone, la reconnaissance faciale des images qui sont dedans, qui te permettent de taper François et de retrouver toutes les photos de François en deux secondes, c'est de l'intelligence artificielle.
J'espère que tu n'en as pas beaucoup sur ton téléphone, hein, me concernant.
Ouais, j'ai quelques-unes que je pourrais quand même publier un jour. Ouais. Non, t'as
sur
ça.
Sur Facebook?
Tu as toutes les suggestions d'app, les suggestions de contact, les suggestions d'ajout. En fait, c'est des produits qui carburent déjà à l'intelligence artificielle. Là, c'est du marketing pour se rattacher à cette macro-trend qui est l'AI et la Gen AI. Il va y avoir sans doute des produits qui vont être déployés dedans, qui sont neufs. Il y a des partenariats importants qui sont en cours. Donc, il va y avoir de l'innovation. Mais la réalité, c'est que c'est déjà un outil qui carbure à l'intelligence artificielle. Donc, c'est une manœuvre pour se mettre en porte-à-faux avec l'Europe. Après, là où je trouve que les tenants des gens qui disent qu'il faut moins réguler en Europe ont raison, c'est que l'Europe donne prise à Apple sur un truc comme ça. C'est-à-dire, dans l'opinion publique, on va dire, on peut pas avoir le dernier produit Apple parce que l'Europe a trop,
trop
régulé.
Mais
que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, son excès de régulation, le DMA, l'AI Act, qui est juste une fumisterie complète.
Alors, attends, parce que sur l'AI Act, la Californie va voter une loi qui va encore plus loin que l'AI Act.
Ah, mais la Californie est encore plus régulatrice que nous, donc on l'a inspiré.
Ouais.
Bon. Ah, si. Si, si. Et puis à la fin, on a juste un continent qui régule alors que tous les autres ne régulent
pas. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En Chine, il n'y a pas.
Aux États-Unis,
il n'y en a pas. Alors, au DMA, il y en a plein. Il y en a en Australie. au Brésil, ils sont en train de l'étudier, au Mexique, au Japon, en Corée du Sud. Donc c'est pas vrai, il n'y a pas que l'Europe qui régule.
C'est pas en place dans ces pays-là.
Ah ben ça entraîne, non mais il y a des projets
c'est en train,
de loi.
D'accord, mais on est les premiers, on est les pionniers.
Mais même sur certains points, t'as des États américains qui régulent,
alors
pas au niveau de l'IAC, mais ils régulent quand même pas mal. Moi je pense que sur ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. Il y a ce côté Apple qui a déjà, enfin qui est en train de répondre,
manœuvre,
on sont bien partout. Je pense aussi qu'ils ne sont pas prêts et que ça c'est un bon moyen aussi de dire les gars, l'Europe, etc. Et puis en ce moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment quand tu te renseignes un peu? C'est tous les lobbying. T'as tous les gens d'Apple qui sont en train de, dans tous les bureaux à Bruxelles, qui sont en train de voir autour de la protection des données personnelles. Ils sont en train de voir tout ça. Eux, ils veulent aussi, je pense, il y a quand même ce côté-là. Ils mettent un petit peu la pression sur l'Europe en disant voilà, on sort ce message-là. Mais eux, c'est un moyen aussi d'être en train de négocier comme des fous
pour pouvoir
dire un jour, ben voilà, c'est prêt, et venez pas nous chercher avec 12 milliards ou 13 milliards d'amende derrière.
Là où ça pose problème, c'est envie de réguler à tout va quand même.
Bah après ça,
protéger, etc. Non, mais je veux dire, c'est un marché ouvert. On est un marché comme un autre. On protège, on a des fondamentaux. Mais après, pourquoi est-ce que on veut pas laisser ces produits on veut casser l'App Store, avoir des sous-App Store?
En fait, parce qu'il y a d'autres entreprises qui disent que l'App Store est aujourd'hui.
Oui, qu'il y a une hégémonie.
Je vous prends un exemple. Vous avez parlé hier d'Ubisoft, c'est ce que vous disiez. Oui. La mort d'Ubisoft, c'est parce qu'ils ont essayé de recréer leur Steam. Donc, de recréer leur App Store pour télécharger les jeux.
Il n'y a pas que ça qui les a mis dans la.
Non, mais c'est le truc où ils ont dépensé plus d'argent dans les 3 dernières années. Ils ont cramé tout leur pognon là-dedans. En fait, tu ne peux pas. C'est comme ça.
Non, moi, ce qui me soucie,
dans une économie de marché, le meilleur produit.
Non, mais sauf que là, c'est pas vrai parce que
c'est pas le régulateur.
Sur iOS, tu dis pas la meilleure boutique d'application, c'est l'App Store parce qu'il y en a qu'une. Tu dis pas le meilleur wallet pour payer mes achats, ouais, c'est Apple Pay parce qu'il y en a qu'un. Ouais, donc tu peux pas dire ça en fait.
C'est vrai.
Tu peux pas dire le meilleur browser.
Mais pour moi, l'autre souci aussi que l'on a aujourd'hui avec la régulation, c'est que la régulation, en général, c'est pour faire émerger la concurrence. Seulement, on fait émerger quelle concurrence? Concurrence américaine.
Ah bah,
et notre gros souci, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, si cette régulation, elle permettait de dire, allez, on freine un peu Apple Intelligence, on freine un peu Google Gemini, et puis on pousse. Alors, je sais pas si des
Mistral, des Alpha. Ce que font les Asiatiques.
Mais tu vois,
l'idée, c'est pas de freiner.
Mais freiner, c'est les, un peu les contraindre un peu. Pour permettre donner le temps à des et même avec des capitaux américains ou des capitaux qui viennent d'ailleurs, mais à des Français, des Européens d'aller plus vite. Mais le problème, c'est
aller plus vite sur quoi? Sur l'iPhone?
Pas sur l'iPhone, mais sur l'IA. Aujourd'hui, on se rend compte, on s'est fait dépasser sur tout. Là, on se dit, tiens, il y a l'IA, il y a le quantique, il y a tout ça. Est-ce que là, on peut pas essayer d'arrêter un peu cette innovation? Le problème, c'est qu'on donne pas les moyens ici en Europe pour justement relancer. Enfin, tu vois, il manque plein d'argent sur l'IA, sur, tu parlais de la 3D, tout ça. On manque d'argent là-dessus et en même temps, on veut un peu freiner l'innovation quelque part des autres. Et pour moi, c'est là où l'Europe joue pas son rôle. On a besoin de régulation parce qu'il faut faire attention à la protection des données, etc. Mais cette régulation-là, et notamment DMA, c'est pour faire émerger, faire croître des startups, émerger. Mais là, mais on les aide pas derrière, donc ils vont rester toujours petits, puis les autres vont continuer à grossir, ils vont trouver toutes les faux d'autres chemins pour venir inonder le marché.
Ouais, moi je pense que c'est un peu trop tard parce que ils sont tellement gros aujourd'hui.
C'est pas parce que c'est trop tard qu'ils vont plus rien faire.
Non, bien sûr. Mais
choisissons nos
batailles. Moi, je suis d'accord. Le seul truc, et c'est là où je pense qu'il faut qu'on soit vigilants tous, c'est qu'il ne faut pas que toutes ces régulations, toutes ces réglementations privent les utilisateurs européens de services que peuvent avoir les Américains sur un téléphone dont ils payent le même prix.
Mais c'est pas le cas en fait.
On va perdre 6 mois, on va avoir 6 mois dans la vue minimum sur une technologie qui va être pérenne, qui va déjà être installée sur des iPhones aux États-Unis.
Pas la faute de la réglementation. Elle pourrait être lancée. Si Apple le voulait, elle pourrait le lancer en Europe.
Mais qui te dit qu'il n'y a pas aussi un petit jeu de la part d'Apple en disant on va jouer. D'abord, peut-être qu'on ne sait pas, mais peut-être qu'il se blinde avec des avocats pour voir justement si Apple Intelligence ne tombe pas sous le coup du DMA. Donc ça, c'est peut-être des mois de vérification technique, technologique, qui font que ça va prendre du temps. On ne sait pas. Sincèrement, tu sais pas.
Oui. C'est pas un marché ouvert.
Non.
On sait pas dans quel contexte on évolue, quelles sont les règles du jeu. On va passer 6 mois d'analyse du
jeu. Je pense qu'il faudrait prendre le problème à la racine. Non, il faudrait peut-être, Jérôme, prendre le problème à la racine et se dire, à ce moment-là, Pourquoi ne pas laisser le choix à l'utilisateur européen dès le départ en lui disant, est-ce que tu veux, on va dire, un iPhone qui va être ouvert à la réglementation européenne avec, on va dire, des options ou pas, ou alors, est-ce que tu veux et tu signes quelque chose, que tu actes avec un OK, un disclaimer, etc., pour avoir un iPhone qui va récupérer des données, etc., et qui ne sera pas... qui ne respectera pas la réglementation européenne, mais qui permettra d'avoir des innovations peut-être plus rapides.
Mon avis est que...
C'est la liberté,
c'est
pas une question de liberté, c'est une question, il y a des règles aujourd'hui qui ont été votées, alors on est contre, on est pour, machin, mais Apple, il peut les respecter. Apple, c'est une grande entreprise qui a des avocats, qui a des armées d'avocats, des armées de lobbyistes, le DMA, ils l'ont lu en long, en large et en travers, et en plus là ils utilisent le DMA comme une excuse, parce que c'est pas vrai, il n'y a pas dans le DMA quelque chose qui dit l'Apple Intelligence ça va être interdit par le DMA, c'est pas possible. Et donc là moi je veux bien
après... Donc ça t'en es sûr?
Bah oui, ils parlent d'inter... c'est pas inter... enfin, tous les avocats à qui j'ai parlé, ils disent il n'y a pas dans le DMA quelque chose qui dit ça.
D'accord.
Alors qu'ils disent que ça crée des incertitudes, à la limite la seule incertitude c'est sur le RGPD. Et là ils n'en parlent pas, parce que le RGPD, voilà, on en a passé déjà, donc ils ne parlent plus du RGPD, ils parlent du DMA, et enfin bon.
Mais pour revenir sur la partie régulation en Europe, je pense qu'au niveau des consommateurs, là, ça va être compliqué parce que, comme tu dis, il y a une telle avance. Par contre, si l'Europe devait travailler, c'est plutôt travailler sur des IA et santé, IA et défense, IA et transport. Tu vois. Là, il y aurait des choses à dire, tiens, ben là, on va les réglementer un peu ces parties-là, où là, on a peut-être notre carte à jouer avec certains de nos acteurs européens et tout ça. Et là, je trouve que, encore une fois, l'Europe ne joue pas son rôle. Ils vont s'attaquer au marché consommateur qui, alors oui, est énorme, etc. Mais. C'est perdu, quoi, aujourd'hui. Ça, regarde, il y a rien qu'un truc qu'est-ce qui nous ennuie le plus aujourd'hui? Tu rentres une adresse. Avant, t'avais le Maps qui s'affichait, tu voyais tout de suite, itinéraire et tout ça. Là, il faut ressortir de l'application. C'est bon, quoi. Là, on nous dit qu'on va peut-être supprimer l'App Store. T'imagines les gens? Ah oui, moi, je veux pas Apple. Tu m'as compris.
Tu pourras le supprimer. Mais...
On va désimplifier les choses. Les gens vont être perdus, tout ça. Là, la bataille, je dis pas qu'elle est perdue. Il faut encore se battre sur certains points. Mais allons nous battre sur, ce que je viens de dire, là, sur les données de santé, sur une IA dédiée à la défense, une IA sur l'éducation.
Allons nous battre là-dessus. C'est deux choses différentes, en fait. Tu peux avoir les deux. Et aujourd'hui,
concentrons notre énergie sur la deuxième partie et un peu moins sur l'autre.
Il y a plein d'investissements en France. Tu as le plan France 2030 où on investit des milliards dans les nouvelles, dans le quantique, dans l'IA, des choses comme ça. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. Ça peut être les deux aussi. Hein.
Ouais, mais il y a une partie qui est un peu perdue quand même.
Bah, après, de toute façon, même avec l'État, tu n'auras jamais autant d'argent qu'un OpenAI. Mmh. Donc, est-ce que c'est, on n'aura pas
parlé. L'argent qui arrive sur nos innovations.
Oui, on a 10 minutes en plus. Donc, c'est pour ça, nos stress, les amis, tout va bien. Non, mais sujet qui est clivant, en tout cas. Mmh. Hein, on n'a pas forcément tous le même avis. Et c'est vrai que, pour rejoindre Jérôme, c'est vrai que le DMA apporte quand même des choses intéressantes. Et on le voit, il fallait peut-être aussi, au bout d'un moment, taper un peu sur les doigts d'Apple, qui, de manière, on va dire, totalement aveugle, prend 30% de commission sur des choses qui, au bout d'un moment, mériteraient peut-être une commission moindre. Et je pense qu'ils ont été trop gourmands. Apple a poussé un peu le bouchon un peu trop loin. Et là, ils se retrouvent dans une situation
C'est pas au régulateur de fixer les commissions d'Apple. C'est entre les fournisseurs, les éditeurs de logiciels et de jeux.
Non, mais c'est peut-être la conséquence.
Le régulateur ne fixe pas la commission. Le régulateur dit juste, on peut avoir un marché ouvert où d'autres boutiques d'applications peuvent proposer des commissions inférieures. Et juste pour dire, aux États-Unis, ils ont été condamnés, notamment, par la justice américaine, à rouvrir l'App Store aussi. Donc, il n'y a pas qu'en Europe.
Oui, Epic Games, etc. Mais moi, je trouve qu'on est intrusif. Ce n'est pas une économie de marché. Un truc où tu as un régulateur. Tu vas me dire, c'est le régulateur qui est
dans une économie de marché, tu as des régulateurs. L'économie de marché, ce n'est pas la porte ouverte à tout.
T'as quoi comme régulateur aux États-Unis?
Il n'y a pas de régulateur aux États-Unis. Il n'y a pas la FTC. Bien sûr qu'il y a des régulateurs.
Oui, tu as des régulateurs pour le consommateur, pour sa santé. Et tu n'as pas ces règles-là.
Il n'y a pas ces règles pour les télécoms. Google vient d'être condamné il y a un mois. Ils ont été condamnés. Il y a un procès qui s'est ouvert la semaine dernière, enfin, début de semaine. Oui. Aussi qui s'est condamné pour leur position dominante. Donc il y a aussi.
Oui, c'est vrai.
Après
40 ans d'open bar.
En Europe, c'était 40 ans d'open bar en Europe.
Mais je comprends, c'est des principes qui sont. Moi, je suis
d'accord. Le procès antitrust contre Microsoft en 2000, c'est pas l'Europe, c'est aux États-Unis. Donc c'est pas l'Europe qui régule et les États-Unis qui régulent jamais.
En 15 ans,
en France, en Europe aussi. Pendant 15 ans, on n'a rien fait.
Nous, on n'a pas de champion.
Bon, on a Spotify.
Fred, sortons l'extincteur. Parce que là. C'est pas possible. Ça s'embrase sur le plateau de Tech & Co. Et nous sommes les témoins de cet incendie.
On jette les étincelles.
Oui, c'est vrai.
On met une pièce dans le.
Non, mais.
vraiment constructif. On revient dans un instant. OpenAI, qui pourrait lever 6,5 milliards de dollars. On a encore quelques minutes de rap de ce débrief de l'ActuTech avec un Hugo en pleine forme. Jérôme, n'en parlons pas. Frédéric Simotel et moi qui comptons les points. C'est un régal. À tout de suite. Merci d'être là.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour du débrief de l'ActuTech. Encore quelques minutes à passer avec nos débriefeurs. Hugo Borenstein est là, cofondateur et président d'Omi. Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr, une newsletter qu'on vous invite à découvrir. N'hésitez pas à vous inscrire, donc cafetech.fr. Et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Tiens, si on enchaînait sur OpenAI, qui pourrait lever beaucoup d'argent. On parle de 6,5 milliards de dollars pour une valorisation de 150 milliards. Il faut savoir que ben voilà, tous les chiffres sont au beau fixe hein, pour OpenAI, ChatGPT Carton. ChatGPT a annoncé la semaine dernière compter plus d'un million d'utilisateurs payants pour ses produits professionnels, ChatGPT Enterprise. Donc voilà, les chiffres sont bons, mais OpenAI brûle beaucoup de cash. Forcément, déjà par la puissance de calcul, peut-être aussi par des projets qui sont encore plus gourmands en puissance de calcul. Et on parle toujours des mêmes, hein, les investisseurs, pour être Microsoft, forcément, puisqu'ils ont déjà des parts dans OpenAI, mais aussi Apple, c'est ça qui est assez, assez savoureux quand même, et Nvidia, là aussi, Nvidia qui, évidemment, la boucle est bouclée, puisque c'est eux qui fournissent toute la puissance de calcul.
Les chiffres sont bons pour ce qui rentre, ils sont moins bons pour ce qui sort, c'est-à-dire la dépense là, et puis le nombre de personnes qui s'en vont aussi, parce que là, en termes d'équipe, ils ont perdu quand même pas mal de monde. Alors, ils recrutent, mais dans les bons, ils en ont perdu beaucoup. Donc là, il y a une petite inquiétude là-dessus, parce que là, ils sont encore sur les. Tout ce qui sort aujourd'hui, c'est encore sur les fruits. Alors, c'est Nia Muretti, enfin, c'est encore sur l'ancienne équipe, mais il y a quand même pas mal de super bons qui sont partis, alors monter des entreprises concurrentes, qui sont partis, pas encore chez Google, j'en ai pas vu beaucoup, mais là, les 6-8 prochains mois vont être intéressants à suivre en termes d'innovation, voir voilà, comment tout ça va se poursuivre.
Messieurs, forcément, enfin, Hugo, voilà, c'est une obligation pour OpenAI de lever tout cet argent.
Je trouve que le montant n'est pas gigantesque en face du chiffre d'affaires. Parce que je crois qu'ils forecastent à 2 milliards cette année quand même.
3,4.
Ils
disent qu'ils ont multiplié par 2.
Et cette valorisation par rapport au chiffre d'affaires.
Ça fait 50 fois le chiffre d'affaires, ça fait quand même pas mal.
Ouais, mais bon, on parle d'OpenAI, quoi. 50 fois le chiffre d'affaires, c'est ce que va faire Mistral, c'est ce que fait une start-up européenne, quoi. Donc je trouve que la corrélation, ça me semble un deal logique, quoi. Correct, pas déconnant. Il n'est pas si exotique que ça. Par contre, je me rappelle il y a quelques mois d'un débrief où on parlait de son plan d'investissement pour construire ses propres puces. Il voulait lever, atteindre les GI. Il voulait lever combien? 3 000 milliards.
Entre 3 000 et 6 000 milliards, je crois.
3 000 et 6 000 milliards.
C'était 1 000 milliards, mais le chiffre avait été mal compris, en fait.
1 000 milliards.
Oui, mais le chiffre avait été mal compris, il n'avait pas dit ça. Enfin,
mais donc ça, il n'a pas dit ça?
Non, en fait, il avait dit qu'il faudrait 1 000 milliards dans le monde, en fait, pas pour lui.
Donc tout le marché de l'IA, oui, pour voilà, atteindre les GI. D'accord.
Okay. Ça, c'était.
Parce que, il avait dit je fais 1 000 et je fais 1 000 milliards et je fais
6,5. Mais ce projet, il est à part. Hein. Il n'est pas avec OpenAI, ça serait un projet à part. On ne sait pas où ils en sont aujourd'hui.
Il veut fédérer toutes les équipes, tous les chercheurs.
Mais ouais, ce qui est intéressant dans la levée, donc aussi, c'est un montant important. Et juste quand il y a quelques semaines, le Wall Street Journal en parlait, c'était 100 milliards de valorisation. Donc on est passé à 150 milliards. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait rentrer d'autres investisseurs, en fait. C'est qu'avant, il n'y avait que Microsoft, pardon. Mmh. Et là, il fait rentrer Apple. On sait, ils sont rapprochés d'Apple avec l'iPhone. Il fait rentrer Nvidia, alors même que Sam Altman veut concurrencer Nvidia potentiellement. Donc, c'est un peu...
c'est un peu consanguin, hein, tout ça. Hein.
Bah, souvent, de toute façon, tu es toujours les mêmes. Hein. C'est toujours, tu retrouves ces trois, et puis après, tu rajoutes Meta, Facebook et Google.
Est-ce que je disais, toi, qu'il y a une vraie culture tech, c'est rare de la part d'Apple d'investir dans des boîtes comme ça.
Généralement, Apple achète plutôt.
Oui. C'est étonnant. Hein. Enfin,
j'ai pas mémoire.
À ma connaissance, j'ai pas le souvenir qu'Apple investisse dans une boîte comme ça simplement.
Bon, Apple, ils aiment bien racheter des équipes.
Voilà, ou prendre le contrôle.
C'est sur ce qu'on dit, hein. C'est la preuve, enfin, pour moi, c'est la preuve de leur retard.
Oui, bien sûr.
En IA. Et puis tu disais le côté consanguin, c'est aussi tous les fonds d'investissement qui sont derrière, sont tous les mêmes. Hein. Oui, bien sûr. Bah après, il faut avoir beaucoup d'argent aussi. Hein. C'est pas n'importe qui peut investir à 6 milliards
après,
de dollars.
Après, là, cet argent-là, c'est aussi ses places au premier. Enfin, OpenAI a compris que, il a doublé tout. Qui pensait il y a un an et demi que quelqu'un serait devant Google en IA?
Et aujourd'hui, on voit Google, même si Gemini peut être meilleur sur certains points et tout ça, ils ont un mal fou. Même si Anthropique avec Claude devient un des meilleurs modèles, ils ont un mal fou.
Mais ouais, t'as ce côté où t'as le winner takes all aujourd'hui sur l'IA. Et c'est vrai que t'as plein de startups d'IA qui font à peu près la même chose et qui ont beaucoup de mal en fait. Parce que le ChatGPT, OpenAI, c'est tellement aujourd'hui la marque. Quand on pense IA, on pense OpenAI. Que les entreprises, quand elles veulent aller chercher l'IA, elles vont aller directement chez OpenAI. Donc, il y a un marché.
Elles vont prendre les autres, mais d'emblée, elles vont prendre OpenAI, puis après, elles regarderont si elles ont besoin des autres.
Et la pénétration dans les grands comptes, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas un grand compte qui pense à autre chose que OpenAI. Ouais. C'est pour ça que Mistral
Microsoft,
galère.
Même Microsoft, quand on a lancé Copilot Plus, les chiffres de vente, a priori, seraient très mauvais, en fait. Très inférieurs aux prévisions, alors que Microsoft a la relation avec toutes les grandes entreprises, a une relation avec Microsoft. Donc.
Ouais. Je connais des entreprises qui négocient des abonnements qui étaient, rappelez-vous, 30 euros, les négocient à 5 euros.
Ah oui, c'est le déstockage massif.
Ah oui, oui.
C'est le Black Friday avant le Black Friday. Tiens, juste une petite actu, puisque vous savez, on est en direct, il est 21h07 en ce jeudi. On a reçu un communiqué de presse de la part d'OpenAI, puisque OpenAI vient de lancer en fait une nouvelle série de modèles d'intelligence artificielle qui sont conçus pour résoudre des problèmes complexes. Et en fait, cet entraînement permet des modèles d'intelligence artificielle d'avoir des niveaux de doctorants sur des tâches exigeantes en physique, chimie et biologie. Et ce modèle s'appelle O1. Et t'en as entendu parler, enfin, avant de commencer cette émission, tu as jeté un œil là-dessus?
Ouais, juste en arrivant, c'est le nouveau modèle. Alors, ça faisait un peu aussi écho à l'annonce chez Microsoft, hein, ça se faisait tout à l'heure. Parce que moi, j'ai vu sur Twitter, sur X, que c'était un modèle qui allait être particulièrement bon pour les workflows de jeux vidéo, les raisonnements sur les mécaniques dans les jeux pour les faire fonctionner ensemble. Donc, intéressant que ça sorte à ce moment-là, je trouve.
Ouais. O1, ça s'appelle.
C'est ça.
Et ça va être disponible. C'est un GPT en quelque sorte. Hein. Je crois qu'il faut après payer pour.
Oui, mais là, c'est juste pour les abonnés payants.
Ouais, c'est ça, voilà, pour les abonnés Team et les abonnés Plus.
Et ce que j'ai compris de sa particularité, c'est qu'il parallélise ses tâches de réflexion. Donc il n'attend pas la suite de ta question pour continuer à échanger avec toi, à converser avec toi, à réfléchir à ta problématique. Il travaille, il parallélise et donc il anticipe. Tu perds du temps dans le moment où tu échanges avec lui, mais tu en gagnes en efficacité à la fin sur ton rendu.
Tiens, il nous reste quelques secondes pour évoquer Pixtral 12B. Je ne sais pas si vous avez suivi ça aussi. C'est un peu la réponse de Mistral à OpenAI qui lance son LLM multimodal parce qu'il faut savoir que Mistral n'avait pas de LLM multimodal, c'est-à-dire que c'était que du texte. Là maintenant on se retrouve avec des images et peut-être même du son, je suis pas sûr. Enfin le son je suis pas sûr, je crois que c'est que les images pour l'instant, et ça s'appelle donc je le disais Pixtral 12B. Mistral rattrape son retard, maintenant est-ce que ça va suffire, c'est toute la question.
Après c'est toujours pareil, hein, c'est l'histoire du business model et comment ils gagnent de l'argent, parce qu'en brûlé, oui, la technologie, il y a aucun, enfin je pense qu'il y a aucun souci autour de ça. Alors, on a vraiment une technologie pointue, c'est vraiment une équipe super puissante. Maintenant ce qu'il faut convaincre aujourd'hui, c'est passer à la phase business commerciale et commencer à faire payer ça,
à rentrer du cash.
C'est le défi pour tout le monde en fait aujourd'hui.
Mais OpenAI pareil, hein,
un peu moins, mais
ils ont ces gros investisseurs, mais je pense que c'est une étape importante pour Mistral, c'est d'avoir même si c'est encore des petites images, enfin voilà, mais d'avoir ce côté multimodal, on l'attendait, hein, quand même.
Hugo, pour conclure vite fait.
Alors sans révéler de secret, ils commencent quand même à faire un peu de chiffre d'affaires récurrent, commence à pousser un petit peu. Non, le seul truc c'est que c'est les derniers en France, puisque vous avez suivi les actus chez H. Est l'autre Mistral, si je résume.
Tous les fondateurs
ça va
partis.
Un peu au tapis parce qu'il y a 4 fondeurs ou 3 fondeurs sur 5 qui sont fâchés et qui partent 3 semaines après avoir levé 220 millions de dollars. Donc il faut qu'on soit tous dans l'équipe Mistral.
Oui, c'est ça. Ouais. Allez, on les soutient et on réitère notre invitation.
Arthur Mensch.
Si un jour ils veulent venir parler dans Tech & Co, ce qui est pour l'instant difficile à voir. On va y arriver, bien sûr, on est optimiste, les gars. Il faudrait peut-être demander à ChatGPT comment on pourrait convaincre
Mistral
de venir.
Au chatbot de Mistral.
Oui, pourquoi pas, on pourrait faire ça aussi. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Hugo Borenstein, merci Jérôme Marin et merci à Fred Simotel. 21h10, petite pause. On va retrouver Léa Benaïm pour le Tech Flash. On ira aussi du côté de la rédaction de Tech & Co, bien sûr. Et après, on s'intéressera à la Tesla qui pourrait passer en mode autonome dans les mois qui viennent. Alors, c'est une longue histoire, hein, de ce truc-là. Ça fait un moment que ça traîne. Mais visiblement, ça pourrait s'accélérer en 2025. On verra si c'est possible et comment c'est possible. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Elle est avec nous ce soir, on est très heureux de la retrouver. C'est Léa Benaïm pour un condensé de l'actu tech de ce jeudi 12 septembre. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, l'Europe est bien décidée à ne pas lâcher les GAFAM. Le régulateur irlandais qui agit au nom de Bruxelles a ouvert aujourd'hui une nouvelle enquête contre Google. Cette fois, le géant est accusé d'utiliser les données personnelles des Européens pour entraîner ses modèles d'IA. Cette enquête doit déterminer si Google respecte ou non le RGPD. Dans les jeux vidéo, des associations de consommateurs ont déposé ce matin une plainte auprès de Bruxelles. Ils accusent 7 éditeurs de pratiques commerciales déloyales. Selon eux, les joueurs, notamment les enfants, sont poussés à dépenser plus d'argent à travers les monnaies virtuelles dans les jeux supposés gratuits. Ils se mobilisent pour demander l'interdiction des achats intégrés tels qu'ils existent aujourd'hui dans le viseur Epic Games, le créateur de Fortnite, Ubisoft ou encore Electronic Arts. Toujours dans le secteur des jeux vidéo, Microsoft annonce 650 licenciements supplémentaires dans sa division, seulement quelques mois après les 2000 déjà annoncés. Le géant traverse une mauvaise passe, les ventes de Xbox sont en chute libre et l'entreprise peine à capitaliser sur son Game Pass. Le PDG Phil Spencer certifie tout de même qu'aucun jeu, appareil ou expérience n'est annulé malgré ses coupes dans les effectifs. Direction l'espace maintenant. SpaceX est entré dans l'histoire aujourd'hui. L'équipage de la mission Polaris Dawn a réussi la première sortie spatiale privée. Deux des quatre civils à bord ont passé quelques minutes hors de la capsule, rattachée par un cordon, les pieds dans le vide à 600 km de la Terre. Cette sortie était aussi l'occasion de tester grandeur nature les toutes nouvelles combinaisons développées par l'entreprise d'Elon Musk. Et avant de terminer ce journal, cap sur les États-Unis et plus précisément le Nevada, où l'équivalent du pôle emploi local va s'appuyer sur l'intelligence artificielle de Google pour délivrer les allocations chômage. Les premiers tests montrent que l'outil a seulement besoin de 5 minutes pour statuer sur un dossier, contre une moyenne d'une heure pour un humain. Un gain de temps pour les salariés, même si une validation humaine sera toujours nécessaire pour limiter les erreurs. Et pour finir, rendez-vous demain à midi pour un nouvel épisode de De quoi je me mêle, votre rendez-vous de la tech du week-end avec François Sorel. Et on est évidemment revenu sur l'événement de la semaine, la keynote Apple qui s'est déroulée lundi. Une émission que vous pouvez retrouver donc dès demain en podcast sur le site de BFM Business, en vidéo sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
Visiblement, avec ces nouveaux téléphones, on va pouvoir aussi envoyer des SMS par satellite. C'est-à-dire que Apple étend en fait la fonction urgence qui était réservée justement à des SMS d'urgence. Sauf que là, maintenant, ça va être ça se généralise. C'est-à-dire que quand t'as pas de réseau, tu pourras envoyer même des SMS qui ne sont pas urgents.
Alors ça c'est une nouveauté, pas tellement l'iPhone 16, c'est une nouveauté d'iOS 18 qui a été présentée à la WWDC.
Qui commence au 14, je crois.
Qui commence, je crois, c'est ça, je crois le 14. Oui, tu as raison, c'est le 14. Et donc ça c'est plutôt sympathique. Si vous avez un 14, un 15 qui permettait, si vous êtes en zone non couverte par un réseau cellulaire, de pouvoir envoyer
des SMS d'urgence.
Oui, voilà, même pas des SMS, mais il y a vous êtes en difficulté, vous décrivez votre problème et ça envoie un message avec votre localisation par satellite. Là, on pourra carrément converser par SMS par satellite.
Voilà, de quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end à retrouver dès demain, dès midi, en exclu, en audio, en podcast et en vidéo sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Tech & Co, la rédaction, c'est tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, la chronique, techandco.com.
Et on retrouve pour notre rendez-vous tech, Sylvain. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir.
De quoi allons-nous parler ce soir, mon cher Sylvain ?
Et bon, on va parler de pouvoir réparer son iPhone plus simplement, parce que bon, vous savez sans doute, Apple, ils ont annoncé l'iPhone 16 en tout début de semaine. D'ailleurs, vous en parlerez demain dans De quoi je me mail. Ouais. Et au-delà de toutes les nouveautés dévoilées, comme par exemple le fameux bouton à retour haptique, qui est le bouton star de cette keynote, Apple a dans sa besace une nouveauté sur laquelle elle n'est étrangement pas vraiment revenue pendant cette keynote. Elle est liée à la réparation. L'iPhone 16 sera a priori bien plus simple à réparer que les précédents modèles. Et tout ça, c'est grâce à l'Europe.
Alors, vous n'êtes pas Madame Irma, mon cher Sylvain. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, en fait ?
Alors, oui, c'est vrai que je ne suis pas encore Madame Irma. J'aimerais. Mais Apple, de son côté, ils l'ont expliqué. Ils ont expliqué que les iPhone 16 et 16 Plus, attention, pas les pros, ils disposaient d'un design repensé afin d'y loger une batterie plus grosse. Elle permettrait notamment de mieux dissiper la chaleur, mais surtout, elle faciliterait les interventions sur la batterie. Autrement dit, même si les composants restent collés, hein, ça c'est l'apanage d'Apple, ou parce que comme ça, ils sont impossibles à remplacer au-delà d'un Apple Store, eh bien, cette batterie pourrait être davantage accessible. Alors forcément, hein, cette nouveauté, elle vient d'où ? Elle vient, je le disais, de l'Europe, d'une directive européenne précisément qui exige que les batteries des smartphones, elles devront être davantage remplaçables, et ce, d'ici 2027. Alors, il y a fort à parier que d'autres constructeurs vont également s'y mettre. On pense à Samsung, on pense à Google également avec ses Pixel. Alors forcément, ce sont que des promesses d'Apple. Il faudra voir les rapports des différents spécialistes. On pense notamment à iFixit, qui pourront nous donner une note exacte sur la réparabilité de l'appareil.
Et ça va arriver très vite, hein, puisque l'iPhone sort le 20 septembre prochain.
Exactement. Le 20 septembre, oui, le 20 novembre.
Oui, le 20 septembre.
Le 20 septembre.
Plus vite que prévu.
On en parlera bientôt, hein, dans Tech & Co.
Et bien sûr, merci beaucoup Sylvain Trinet de la rédaction de Tech & Co. Et tout de suite, on va parler véhicules autonomes avec mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, décryptage.
Et j'accueille sur le plateau Bruno Mendes da Silva. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Heureux de vous retrouver.
Pareillement.
Co-fondateur et CEO de X Technology, une start-up très intéressante qui compile en fait les données des différents capteurs, alors dans les véhicules, mais pas que, hein, je crois. Hein, vous
exactement,
êtes dans toutes les mobilités, etc.
On a monté la boîte en 2019 sur l'élan du véhicule autonome pour aider les entreprises qui voulaient faire arriver ces véhicules sur le marché en répondant à une problématique qui était le volume de données qui était très conséquent et qui rendait difficile l'accès aux données pertinentes pour améliorer les derniers pourcentages au niveau de l'intelligence artificielle pour rendre la technologie...
En gros, vous triez les données et vous donnez que le meilleur, en fait.
Exactement.
C'est
vraiment avec le meilleur...
Avec les capteurs, donc les caméras, les lidars, les choses comme ça.
Exactement. Et il y a beaucoup d'applications aujourd'hui, pas simplement le véhicule. Il y a les robots industriels dans les entrepôts, dans les
robots,
usines, etc. Donc il y a pas mal de... On va dire
débouchés
possibles pour la technologie.
Voilà. Levée de fonds de 6 millions d'euros début d'année.
Ouais, qui fait 10 millions au total depuis la création et qui nous a permis justement de passer un cap en termes de produits, d'équipes, de clients qu'on pouvait adresser. Donc on est très optimiste sur la suite et on espère que ça va continuer comme ça.
Vous reviendrez nous sur le plateau de Tech & Co
pour la prochaine levée de fonds.
Mais là, ce soir, j'avais envie de vous entendre parce que c'est votre job et parce qu'on voit que vous êtes passionné par tout ça. Ouais. Cette rumeur qui revient, alors ça fait un moment que ça traîne, hein, cette histoire-là, que Tesla pourrait lancer dès l'année prochaine en Europe son FSD, son système de conduite autonome total, qui est déjà opérationnel aux États-Unis. D'ailleurs, derrière vous, c'est l'une des innombrables vidéos de YouTube qu'on retrouve où on voit un conducteur qui ne touche pas le volant pendant parfois des centaines de kilomètres. Exactement. Et la voiture arrive d'un point A à un point B. Ça marche aux US, ça ne marche pas encore en Europe. Ouais. Et on murmure que ça pourra arriver en Europe.
Ouais, alors l'annonce, elle a été faite en 2016. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elon Musk avait promis à ses actionnaires qu'il allait rendre le véhicule, les Tesla autonomes, en 2018. Bon, on est en 2024, mais l'année dernière, lors d'une conférence, il y a un des leaders techniques de Tesla qui a annoncé qu'ils avaient 400 000 véhicules aux États-Unis et au Canada qui étaient full self-driving. Et cette année, c'est 900 000. Donc en fait, il y a eu une croissance des nombres de véhicules qui ont ces capacités-là. Donc dire qu'il y aura une possibilité que cette technologie arrive en Europe, c'est fort probable. Maintenant, il y a toutes les problématiques qui vont devoir être répondues, comme la régulation. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont le droit de le faire ?
C'est ça.
Est-ce qu'il n'est pas forcément le cas aujourd'hui ?
C'est peut-être ça le premier obstacle. Il n'est peut-être pas technique. Parce qu'on peut imaginer que, en fait, les Tesla européennes scannent les routes depuis des années et des années, et qu'en fait, toutes ces données remontent, et que le mapping des routes européennes, et notamment françaises, puisque nous sommes français, sont... Et bien au point, on va dire. Ils ont assez de données, c'est ça ?
Alors, ils ont fait évoluer leur modèle d'intelligence artificielle et ils sont passés sur un modèle d'intelligence artificielle d'IA générative. Donc, donc c'est pas les LLM, c'est ce qu'on appelle les VLM. Donc, c'est les Video Language Model qui permettent justement de faire des prompts sur des images. Et de, ça veut dire que le véhicule donc, va faire ce que nous on fait sur ChatGPT directement. Est-ce que tu peux changer de voix? Est-ce que tu peux faire? Et en fait, la.
En fait, il y a presque un cerveau là. C'est-à-dire que la même si la voiture n'a jamais scanné une route, les caméras vont voir ça. Il y a une IA qui va interpréter ce qui se passe. Et faire comprendre à l'intelligence du véhicule ce qu'il faut faire.
Exactement. Wow. Donc c'est une prouesse technique incroyable de pouvoir faire ça parce qu'ils agrègent toutes les données des flottes Tesla et aujourd'hui ils en ont vendu 3 200 000 je crois depuis 2012. Donc il y a une flotte énorme de Tesla dans le monde et ils ont changé de on crée des datasets pour entraîner à passer à un modèle d'IA génératif où en fait l'ingestion des données permet de pouvoir faire des actions directement. Donc c'est vraiment aujourd'hui en termes de technologie, je pense qu'on peut pas faire mieux.
En tant qu'expert de ce domaine-là, est-ce que vous reconnaissez l'avancée technologique de Tesla dans ce domaine? Est-ce que vous avez déjà testé un full self driving comme ça? Alors moi, est-ce que ça vous, enfin pour vous c'est peut-être habituel, mais ou est-ce que c'est bluffant chaque fois?
Alors moi j'ai eu l'opportunité de tester deux types. Donc j'ai testé Tesla, mais j'ai aussi testé les véhicules Waymo à San Francisco cette année.
Google,
exactement. Donc super intéressant. On commande
sauf qu'il y en a une qui coûte 30 000 dollars, enfin qui peut te coûter 30 000 dollars, et l'autre en coûte 400
millions de dollars la voiture.
Enfin, ouais, ou je sais pas, mais
parce que il y a énormément de capteurs et énormément d'opérations autour. Donc Tesla, c'est les mieux positionnés aujourd'hui pour faire du véhicule autonome une réalité, parce qu'ils en ont fait une réalité commerciale. Aujourd'hui, quand on va sur le site de Tesla, on peut précommander la fonction Full Self-Driving Car pour que quand on achète le véhicule et que la fonctionnalité soit disponible dans sa zone géographique, on puisse avoir la mise à jour pour pouvoir le faire. Donc c'est une fonctionnalité sur le site français qui coûte à peu près 9 000 euros. Oui. Mais c'est une réalité.
C'est pas donné.
C'est pas donné, mais c'est le premier constructeur qui aujourd'hui, à travers une politique commerciale, rend cette avancée réelle. Ouais. Et on a Mercedes qui ont annoncé atteindre le niveau 3. Donc c'est l'autonomie partielle sous certaines conditions. Mais ils l'ont annoncé sur une Mercedes Classe S à 150 000 euros. Donc pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas vraiment palpable.
Parce que, alors qu'une Tesla... Alors évidemment, ça coûte beaucoup d'argent, mais à 30 000 euros...
Ouais, 30-40 000 euros,
on a une Tesla, même peut-être d'occasion, on peut en toucher à moins, et effectivement, c'est jouable. Quoi. Ouais. Bon, même si l'option coûte 9 000 euros, mais il y a une mensualisation aussi.
Et il y a aussi une mensualisation aussi.
De temps en temps, quand on en a besoin.
Ouais. Et ils ont réussi à faire ça, parce qu'ils ont été très pragmatiques aussi sur... les capteurs en fait qu'ils mettaient, ils ont retiré ce qu'on appelle la redondance des capteurs. Ils ont retiré le radar, le capteur ultrasonique, les lidars, etc. Et ils ont gardé que les caméras.
Ouais.
Et aujourd'hui, ces caméras-là par véhicule, ça coûte 100 dollars.
Et voilà.
Donc ça leur permet d'avoir des capteurs qui permettent justement cette technologie-là. À la différence d'une véhicule Waymo qui a une quarantaine de caméras, une dizaine de lidars et qui du coup
Et plus cher.
Et beaucoup plus cher, et du coup, c'est compliqué. Ouais, moi, je pense que Tesla est très bien positionné, et je pense qu'aussi, cette annonce, c'est pour mettre un peu un petit coup de pression au régulateur en disant on arrive, il va falloir préparer le terrain.
Voilà, c'est ça, il va falloir nous autoriser.
C'est ça.
Merci beaucoup, Bruno. On va suivre ça de près. Vous viendrez évidemment nous parler de tout ça et de X Technologies quand vous le voulez dans Tech & Co. Vous en êtes le cofondateur et le CEO pour terminer ce Tech & Co ce jeudi soir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Toujours un vrai plaisir que de passer ces soirées en votre compagnie. Tous les replays de Tech & Co de cette semaine qui vous attendent, bien évidemment, en vidéo ou en audio, en podcast. Et on sera de retour, bien sûr, dès lundi. Et d'ici là, de quoi je me mail dès demain sur BFM Business, sur l'appli BFM Business. Salut à tous et portez-vous bien.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.